Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le conflit israélo-palestinien à la lumière de ce qui se passe à Gaza. Depuis deux semaines, nous retrouvons nos invités. Alain Grèche, journaliste au Monde diplomatique, spécialiste du Proche-Orient, auteur de Israël-Palestine, vérité sur un conflit aux éditions Fayard. Et Pierre Razout, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et auteur de Tsahal, l'histoire de l'armée israélienne aux éditions Perrin. Alain Grèche, on évoquait en fin de première partie de l'émission l'impact de ce qui se passe en Syrie et en Irak avec l'avancée des islamistes de l'EIL sur la question de Gaza aujourd'hui. Vous partagez ce qu'a dit Pierre Razout ?
Oui, mais avec peut-être une nuance, c'est que... Bon, d'abord, quand on parle des islamistes, même radicaux, il faut... Nous, on les met tous dans le même sac, comme si c'était quelque chose... Or, en fait, il y a des tendances différentes. Et comme vous savez, l'État islamique a rompu avec Al-Qaïda, et il a rompu sur la question du chiisme. Pour l'État islamique, l'ennemi essentiel, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas Israël, c'est les chiites. Et de ce point de vue, d'une certaine manière, pour l'instant, ils sont focalisés sur le conflit en Syrie, alors que pour Al-Qaïda, je dirais, Al-Qaïda avait critiqué l'État islamique en Irak, à la fois sur sa brutalité, mais aussi sur son comportement à l'égard des chiites. Donc là, il y a aussi des divisions qui peuvent avoir à terme des conséquences.
Pierre Razout ?
Oui, je crois qu'en fait, alors là, on dépasse le cadre d'Israël et Palestine. C'est le cadre tout simplement régional, c'est-à-dire qu'on est actuellement engagé dans une lutte, j'allais dire à mort pratiquement, entre d'une part les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite en tête, et de l'autre côté l'Iran, ses alliés, et avec à la fois les Turcs, les Occidentaux et les Américains, les Russes qui comptent les coups et qui essayent de se placer. Et oui, on voit bien que l'Arabie Saoudite, par exemple, est homme du millet par ce qui se passe entre l'Irak et la Syrie, par l'État islamique, vous le disiez très bien, parce qu'elle est dans une rhétorique vraiment anti-chiite, quoi qu'il arrive. Ce qui n'est pas forcément le cas des acteurs du Proche-Orient, de ce qu'on appelle vraiment le Levant, dont on parle là aujourd'hui.
Alors, il faut revenir à la question de Gaza et l'intervention israélienne qui est menée depuis vendredi. Alain Grèche, où est-ce qu'on en est des négociations ? Peut-être un rappel, les demandes du Hamas, le du siège de Gaza et relax des prisonniers. Les négociations entre qui et qui se déroulent-elles ? On a parlé de l'Égypte, mais on a compris que ce qui était proposé par l'Égypte n'était pas acceptable par le Hamas. Il y a aussi peut-être les canaux qataris et turcs.
Oui, un des problèmes, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il faut rappeler que la dernière crise, en novembre 2012, c'est le président élu égyptien Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, qui avait ramené assez rapidement à un cessez-le-feu. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait plus lui est effectivement problématique puisqu'il fait de l'Égypte en fait un allié réel d'Israël. Mais quand on parle des négociations, il y a deux questions différentes. C'est-à-dire, il y a les négociations pour revenir à un cessez-le-feu et puis il y a les négociations générales qui permettraient, je dirais, de faire qu'il n'y ait plus besoin de cessez-le-feu parce qu'il y aura une paix. Sur le cessez-le-feu, la demande du Hamas et de l'ensemble des fractions palestiniennes aujourd'hui présentes à Gaza est... Le Hamas n'est pas seul, il a, comme on le rappelait, le djihad islamique, les comités de résistance populaire, un certain nombre du groupe de Fatah, c'est pas de retour au statu quo, c'est-à-dire fin du blocus qui dure depuis 7 ans maintenant, ouverture du point de Rafah que les Égyptiens ferment pratiquement tout le temps, et libération des prisonniers, pas de tous les prisonniers politiques palestiniens, des prisonniers palestiniens qui ont été arrêtés depuis juin 2014, c'est-à-dire à la suite de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 jeunes israéliens. Donc ça, ce sont des demandes sur lesquelles, je pense, le Hamas ne cédera pas. Et en même temps, on voit que pour Israël, c'est difficile d'accepter ça. Donc c'est pour ça aussi que la situation se prolonge et que, comme il n'y a pas d'intermédiaire et de personne capable de jouer ni de puissance régionale, ni de puissance internationale. Donc on est dans une impasse.
Pierre Razout.
Pour rebondir sur ce que disait Alain Grèche, je crois qu'on est en fait fondamentalement tant du côté palestinien que du côté israélien, dans une logique de conquête ou de préservation du pouvoir. C'est-à-dire que à la fois les dirigeants palestiniens et le dirigeant israélien Netanyahou veulent à tout prix garder le pouvoir. On voit bien que Netanyahou est malmené par sa droite. Il a dû, la semaine dernière, révoquer, c'est extrêmement rare quand même en Israël, surtout en période de crise et de guerre, révoquer le vice-ministre de la Défense, Danny Dannon, qui s'était permis de le critiquer. On voit bien qu'il est challengé par Avigdor Lieberman. Donc il est clairement dans une logique de se positionner pour maintenir son leadership sur l'ensemble de la droite israélienne. Et c'est pareil du côté palestinien, où Ismaïl Haniyeh et tous les responsables qui sont autour de lui essayent de maintenir l'unité, parce qu'ils se disent, s'il y a une troisième intifada, un nouveau éclatement, quels seront les dirigeants palestiniens qui vont émerger, finalement, descendre d'un nouvel affrontement. Je voulais dire aussi un mot sur les intermédiaires. On a parlé donc du Qatar. Moi, je pense que le Qatar n'est plus véritablement perçu par personne comme un intermédiaire réellement fiable dans la région. Comme Alain Grech l'a dit, l'Égypte donc est totalement démonétisée en termes d'intermédiaires. Mmh. Donc, je crois qu'actuellement, il reste les Turcs, c'est certain. Erdogan, qui est lui aussi malmené sur la scène politique intérieure, qui est en pleine campagne pour se faire élire président le mois prochain en Turquie, se verrait bien jouer un rôle de premier plan dans un processus de réconciliation interpalestinienne ou en tout cas de négociation avec les Israéliens. Je crois aussi qu'on oublie deux acteurs qui me semblent clés, c'est la Russie. Les Russes essayent de revenir en force et de se présenter comme des interlocuteurs valables, et surtout la Jordanie. La famille royale et le roi de Jordanie et ses conseillers, qui se sentent menacés par la situation actuelle, entendent jouer à terme un rôle, simplement ils ne veulent pas s'imposer, ils veulent un petit peu qu'on vienne les chercher. C'est-à-dire ils veulent se présenter comme l'ultime recours pour essayer d'arranger les cartes entre les différentes factions palestiniennes.
Qu'est-ce que l'on sait de ce qu'aurait à proposer la Jordanie, Pierre Razou?
Je crois que les Jordaniens reviennent à leur grande vision traditionnelle, c'est-à-dire qui est de dire finalement peut-être que la solution c'est une grande fédération jordano-palestinienne. Et même quand, après l'accord de paix entre Israël et la Jordanie en 1994, le royaume hachémite a renoncé à ses droits sur la Cisjordanie. Mmh. Il n'a en revanche jamais renoncé à ses droits et à sa souveraineté sur la vieille ville de Jérusalem, enfin disons sur la mosquée Al-Aqsa et sur les lieux saints. Et donc, ce qui pour le roi représente une forte légitimité. Donc je crois que, clairement, les Jordaniens essayent de dire que la solution à la question palestinienne, elle est triangulaire et en fait, elle se réglera non pas entre les Israéliens, les Égyptiens et les Palestiniens, mais plutôt entre les Israéliens, les Palestiniens et les Jordaniens. Ce qui, en fait, est un clin d'œil de l'histoire, puisqu'on revient au début, j'allais dire, et aux années 40, 50, 60.
Et si on va plus loin dans votre raisonnement, Pierre Razou, tout cela exclut la bande de Gaza?
Pas forcément. Tout le monde dans la région sait que la bande de Gaza est historiquement le cœur de la Palestine, enfin même des Philistins, et que donc on ne peut pas s'en séparer. Je crois que derrière tout cela, il y a aussi la question de savoir comment relier de manière raisonnable et crédible la bande de Gaza à la Cisjordanie, mais alors là, c'est carrément un autre débat.
Un autre débat et un autre chantier. J'aimerais qu'on en vienne aux États-Unis, Alain Grech. Les négociations dont je parlais en introduction ont échoué. John Kerry n'a pas réussi. J'ai entendu Eli Barnavi, ancien ministre d'Israël en France, dire qu'il était peut-être temps que des mesures plus fermes de la part de Washington soit prise et comme cesser par exemple d'apposer son veto à toute résolution visant Israël. Qu'est-ce que l'on sait de la position américaine aujourd'hui, des intentions des États-Unis qui sont en permanente campagne électorale, donc aussi difficulté à...
Ce qui m'a frappé dans la dernière année avec les efforts de John Kerry, c'est il a, comme on sait, passé des mois et des mois de négociations et réellement, je pense que tout observateur un peu objectif savait que ça allait échouer.
Absence totale de volonté politique de part et d'autre.
Non. Je pense que la responsabilité politique essentielle vient et celle d'Israël. C'est-à-dire, les Américains ont tellement épousé la vision israélienne de la sécurité, du fait que c'est les Palestiniens qui doivent faire toutes les concessions, etc., qu'ils étaient convaincus qu'en épousant ça, et comme ils ont face à eux vraiment l'interlocuteur le meilleur qu'ils ont eu depuis 20 ans et qu'ils auront dans les 50 prochaines années, ils ont pensé qu'ils allaient réussir. Sans se rendre compte qu'il y a des choses que même Mahmoud Abbas ne peut pas, sur lequel il ne peut pas reculer. Or, les demandes israéliennes de rester sur le Jourdain pour des périodes illimitées, le fait simplement qu'il y ait 650 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, fait que tout ça est très difficile. Et il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, et je vais vous dire franchement moi aussi, sur la possibilité réelle d'avoir une solution à deux États véritablement indépendants. Alors, la fédération avec la Jordanie serait un moyen, entre autres, de peut-être de surmonter ça. C'était d'ailleurs prévu dans les accords d'Oslo. Mmh. Il y avait l'idée qu'on irait vers une fédération. Mmh. Mais pour les Palestiniens, le fait de récupérer la Cisjordanie et Gaza dans son ensemble, c'est-à-dire 22% du territoire historique de la Palestine, je pense pas qu'ils puissent faire plus de concessions que ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas en céder. Aujourd'hui, ce que demandent les Israéliens, c'est en fait, ils veulent pas qu'on définisse des frontières. Ce qu'ils voudraient, c'est une espèce de d'autonomie qui permettrait de poursuivre la colonisation. Mais même en supposant des échanges de territoires entre le futur État palestinien et Israël, il resterait 150 000 colons sous autorité palestinienne. Aucun gouvernement israélien ne peut les évacuer. Regardez, il y a une colonie à Kiryat Arba, qui est à côté d'Hébron, qui est 8000 personnes, souvent des gens extrémistes, etc. Aucun gouvernement israélien ne pourra les expulser. Donc on est vraiment dans une impasse. Je crois que les Américains, sincèrement, voudraient une solution. Mais ils ne sont pas capables de l'imposer.
Pierre Razou.
Je crois aussi que les Américains, maintenant, sont un petit peu lassés. C'est-à-dire que ils font un nouveau calcul stratégique. Ils veulent rester militairement présents dans la région. Quand je dis la région, c'est pas simplement le Proche-Orient, c'est l'ensemble du Moyen-Orient. Mais plus forcément pour les mêmes raisons qu'auparavant. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent plus intervenir systématiquement, que ce soit pour le droit, pour la démocratie ou pour leurs alliés, mais uniquement maintenant quand leurs intérêts fondamentaux sont menacés. Je crois surtout que Obama a plusieurs, objectifs à très court terme. Le premier, c'est d'essayer de limiter les dégâts dans les élections de mi-terme début novembre. Et sachant ou anticipant un repli du Parti démocrate, à ce moment-là, il se dit « je dois finalement progresser sur les dossiers qui sont vraiment cruciaux pour moi avant ». Et les dossiers cruciaux, c'est plus du tout le dossier israélo-palestinien, parce qu'il a, j'allais dire, il a déjà beaucoup donné et il a pris beaucoup de coups sur cette question-là. C'est l'Iran, c'est la normalisation avec l'Iran. Nous avons ce week-end la deadline de la première fenêtre de négociation entre la communauté internationale et l'Iran, et il faut pas l'oublier, en parallèle, les négociations entre les États-Unis et l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a deux processus de négociation qui courent de manière parallèle.
Des négociations qui ont de fortes chances d'être prolongées.
Qui ont toutes les chances d'être prolongées. Mais dans la vision à la fois des Iraniens et des Américains, en tout cas de l'administration d'Obama, le but c'est d'arriver à un accord courant, voire fin octobre, avant les élections de mid-terms, parce qu'ils savent très bien qu'après, avec un nouveau congrès, ce sera beaucoup plus difficile. Et donc, pendant cette période-là, finalement, qui court de fin juillet, août et septembre et octobre, tous les efforts diplomatiques sont clairement engagés sur ce front-là. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est le fait que ce nouveau round entre Israël et le Hamas et le djihad islamique s'est passé en pleine fin du Ramadan. On voit bien que pour que le Hamas, finalement, accepte de se lancer dans ce défi-là, alors même que ça n'était pas son intérêt, alors même que ses troupes sont affaiblies, etc., etc., c'est qu'il y a vu fondamentalement, sans doute, un défi majeur qui ne pouvait pas. Enfin, il était obligé de relever le défi, en quelque sorte.
Et le Hamas qui n'a pas grand-chose à perdre. Quelques mots tout de même pour éclairer nos auditeurs. Un accord avec l'Iran changerait quoi sur la question israélo-palestinienne, Alain Grech?
Si vous voulez, il y a deux visions. Il y a ceux qui pensent, par exemple, les Saoudiens sont terrifiés à l'idée de cet accord parce qu'ils pensent que cet accord sur le nucléaire va se transformer en un accord stratégique sur toute la région. Je pense que c'est hors de question tant qu'il y a ce gouvernement en Iran ou ce pouvoir en Iran qu'il puisse y avoir un accord. Mais il peut y avoir des accords ponctuels. Il peut y avoir, bon, par exemple, sur le Liban, on voit bien qu'il y a un accord de fait des Iraniens et des Saoudiens pour pas aller trop loin dans l'escalade. Il peut y avoir d'autres accords ailleurs. Donc, il peut y avoir une diminution de la tension. Mais les conditions de la tension sont là, c'est-à-dire aussi bien sur la Palestine que sur la Syrie. Et donc, ça, est-ce qu'il y aura des négociations? Peut-être qu'il peut y avoir des formes de désescalade. On a vu sur la Syrie, par exemple, la décision du Conseil de sécurité d'ouvrir des corridors humanitaires qui a été prise à l'unanimité, ne serait-ce que pour soulager les millions et les millions de réfugiés, de déplacés internes. Il peut y avoir des choses ponctuelles, mais ça ne sera pas un accord stratégique. Un dernier mot sur la Palestine. Il y a une incompréhension, je pense, souvent des Occidentaux de cette question. C'est un tout petit conflit. Il fait beaucoup moins de morts que beaucoup d'autres conflits. Il se passe dans un endroit où il n'y a pas de pétrole. Enfin, maintenant, on va trouver du gaz en Méditerranée orientale. Mais où vraiment, je veux dire, on n'est plus dans la guerre froide, Et pourtant, c'est pour les populations du monde arabe et musulman un conflit symbolique. Et je veux dire, tant qu'il ne sera pas réglé, ça sera un facteur d'instabilité dans la région.
Alors, conflit pas réglé, et comme vous le disiez l'un et l'autre, les Américains voudraient une solution, mais Washington ne se voit pas imposer un accord de paix. Quelques mots sur l'Union européenne. Oui, Pierre Razou, vous voulez rajouter quelque chose?
Je pense que ce qui risque aussi de se passer dans les mois à venir, et qui risque de, malheureusement d'éclipser le conflit israélo-palestinien, c'est une offensive générale contre l'État islamique. Ce qui est en train de se dessiner derrière l'accord de normalisation que je mentionnais avec l'Iran, c'est une entente générale régionale de la Turquie, de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, des Occidentaux, des Américains, de réduire définitivement la question de l'État islamique et donc de lancer une grande offensive générale contre l'État islamique qui sera sanglante, qui peut durer un moment et qui va très certainement, si elle a lieu, je pense éclipser encore une fois la question palestinienne. Donc évidemment, le gouvernement israélien se dit qu'il a encore quelques mois de tranquillité devant lui.
Alors l'Union européenne, Alain Grèche, assez peu influente. Les Européens refusent le contact avec le Hamas et donc c'est difficile pour eux de servir de médiateur.
Oui, mais il faut dire que l'Union européenne, pratiquement depuis les accords d'Oslo, a complètement capitulé et laissé toute volonté de jouer un rôle politique. Elle joue un rôle financier. Il faut rappeler que ce rôle financier, depuis les accords d'Oslo, c'est on paye ce qu'avant les autorités d'occupation payaient. L'argent qu'on donne, c'était l'argent qu'Israël donnait pour gérer la Cisjordanie et Gaza. Donc c'est quand même assez incroyable. Et puis on construit des infrastructures qui, tous les 3 ans, sont détruites par les Israéliens. Donc, mais c'est surtout, au-delà de cet aspect économique, moi ce qui me frappe, c'est la renonciation à tout rôle politique. C'est-à-dire à toute idée qu'on peut jouer un rôle d'intermédiaire. C'est pas forcément être anti-israélien, c'est pas forcément être anti-américain, que de dire nous n'avons pas les mêmes positions. Et nous pouvons influencer. C'est pendant toute la période de négociation avec Kerry, la seule réponse de l'Union européenne, c'est de dire laissons faire les Américains. Alors réellement, je le répète, il allait dans le mur, c'était évident. Donc souvent on dit les Européens n'ont pas d'influence sur Israël, ils peuvent pas faire pression, etc. Mais l'Union européenne, depuis 67, a joué un rôle important. Je rappelle la déclaration de Venise, au moment où les 6 pays européens prenaient cette déclaration qui appelait à la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens et aux négociations avec l'OLP, les Américains étaient contre et Israël était contre. 20 ans après, pour les accords d'Oslo, ils ont accepté ça. Donc on peut jouer un rôle. Le refus de négocier avec le Hamas est totalement stupide. Je veux dire, on peut être en désaccord avec cette organisation, on ne peut pas nier qu'elle a gagné des élections démocratiques et que, de toute façon, elle est un interlocuteur incontournable. Donc, en s'alignant totalement sur les positions israéliennes, et notamment dans ce conflit, je veux dire, les positions, on a vu en plus le cafouillage, mais les positions de François Hollande, je veux dire, là, on commet une erreur, c'est pas seulement, je pense, une erreur morale, mais c'est aussi une erreur politique, c'est-à-dire on prive l'Europe. On prive la France, parce que la France pourrait jouer un rôle, parce que c'est vrai que des fois, avoir les positions de 28 pays européens maintenant, c'est difficile. Mais la France, au moment de Venise, je veux dire, la France était à l'avant-garde des pays européens. Il y avait des pays très réticents, comme l'Allemagne, et on l'a finalement imposé. Et là, ce rôle français a absolument disparu.
Pierre Razou, rapidement, pour terminer.
Oui, très rapidement. Moi, je voudrais pointer un autre élément. C'est que, paradoxalement, autant la réponse de l'Union européenne en tant que telle, c'est-à-dire des institutions européennes semblent totalement absentes ou en tout cas sans aucune force, autant paradoxalement, la priorité revient maintenant aux politiques nationales. C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est qu'un certain nombre d'États, à titre national, prennent des positions qui étaient inimaginables il y a simplement 5 ans ou 10 ans.
Vous pensez ?
Quand on voit par exemple les Pays-Bas ou le Danemark, qui sont des pays qui traditionnellement étaient des alliés, mais alors absolument alignés sur la politique israélienne, pour des raisons historiques que l'on connaît bien. Revenir là-dessus, créer des embargos sur la coopération universitaire, créer des embargos sur toute coopération économique venant de produits émanant des territoires occupés, etc., etc. On voit que les choses changent. C'est pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne, au lieu de voter contre, par exemple, les derniers votes à l'ONU sur la reconnaissance partielle de la Palestine, s'est simplement abstenue. Donc la prochaine étape, c'est carrément de soutenir. Enfin, moi, je le prends comme ça. Et c'est pareil pour la politique française ou pour la politique britannique. Donc je vois en fait, paradoxalement, une frustration au niveau de l'Union européenne en tant qu'institution, mais un retour en force des politiques nationales.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Alain Grèche, journaliste au Monde diplomatique et spécialiste du Proche-Orient, auteur de Israël-Palestine, vérité sur un conflit aux éditions Fayard. Et Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et auteur de Tzahal, histoire de l'armée israélienne aux éditions Perrin. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation l'information. Demain, Géopolitique sera consacré au retour des énergies fossiles. Après la peur de manquer, voici l'abondance. La Méditerranée orientale en est d'ailleurs l'un des théâtres. À demain.